VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30 TU. On est vendredi 7 juillet 2017 au sommaire. Le gouvernement burkinabé va demander le réexamen d'un avis de l'ONU qualifiant d'arbitraire la détention de Djibril Bassolé. Le président équato-guinéen veut porter plainte contre Transparency dans l'affaire des biens dits Malaki. L'armée égyptienne perd plusieurs de ses éléments dans une série d'attaques dans le Sinaï. Et au Togo, la semaine de la purification bat son plein. Ne ratez pas le reportage de notre correspondante à Lomé.
Des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs maîtrisés.
Reportage dans la partie magazine et sommet du G20 à Hambourg en Allemagne avec comme point d'orgue la rencontre entre le président Trump et Vladimir Poutine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. L'organisation des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo ne sera pas possible avant la fin de l'année. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, qui est en visite à Paris. La RDC traverse une crise politique profonde aggravée par le maintien au pouvoir du président Kabila, dont le mandat s'est terminé le 20 décembre 2016. Le gouvernement burkinabé conteste la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à propos de la détention jugée arbitraire de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Ouanogo.
À la suite de l'avis émis par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, estimant que la détention de Djibril Bassolé est arbitraire, en se fondant sur le fait qu'il était un gendarme en disponibilité et donc ne peut pas être poursuivi par la justice militaire. Cet avis est rejeté par le gouvernement burkinabé et selon les mots du ministre de la Justice René Bagoro, le gouvernement burkinabé va demander le réexamen de l'affaire. Selon lui, dans le code de justice militaire, si un civil est co-auteur avec des militaires dans une affaire, ils sont tous poursuivis devant la justice militaire. Le directeur de la justice militaire a rassuré que l'affaire suit son cours. La détention du Djibril Bassolé, selon le gouvernement, n'est pas arbitraire. Managonogo, Ouagadougou, VOA.
67 migrants ouest-africains ont été secourus dans le désert nigérien après avoir été abandonnés par des passeurs. Un des migrants est finalement mort peu après l'opération de sauvetage. Les rescapés avaient quitté il y a plusieurs jours la ville d'Agadez à bord de 3 véhicules avant d'être abandonnés sans provision par les passeurs. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté la réforme du code électoral pour éviter des lenteurs dans le vote en raison d'une pléthore de listes aux législatives du 30 juillet. La majorité de l'opposition dénonce cette modification qui intervient à moins d'un mois des législatives avec la participation de 47 listes de partis ou de coalitions de partis politiques. Avec cette modification, les électeurs peuvent choisir 5 listes sur les 47 avant d'aller dans l'isoloir, ce qui, selon les opposants, viole le secret du vote. Transparency International, dans le viseur des présidents de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Congo, Teodoro Obiang a annoncé une plainte commune contre cette ONG dans l'affaire des biens mal acquis. Les explications d'Eric Manirakiza.
Le président de Guinée équatoriale a déclaré que l'achat de biens en Europe n'est pas interdit par une quelconque disposition nationale ou internationale. Teodoro Obiang a aussi précisé qu'un pays tiers ne peut non plus déclarer illégaux des biens en provenance d'un autre pays. Son fils et vice-président, Théodorine Obiang, est jugé à Paris. Mercredi, le parquet a requis 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis dépassant 100 millions d'euros. La défense a dénoncé une mascarade. Le verdict est attendu le 27 octobre. Considérant que la justice française fait de l'ingérence dans les affaires d'un État souverain, Teodoro Obiang a dit qu'il va concerter les présidents gabonais Ali Bongo et congolais Denis Sassou Nguesso, également visés dans la même affaire, pour porter plainte contre l'ONG Transparency International qui s'est constituée parti civil à son procès.
L'un des principaux partis d'opposition de Madagascar a maintenu son appel à manifester demain dans la capitale Antananarivo. Malgré l'interdiction de la police, l'armée est déployée autour du stade où l'opposition a prévu de se réunir. Le TIM, le parti de l'ex-président Marc Ravalomanana, a dénoncé une provocation du gouvernement. Au moins 26 soldats égyptiens ont été tués ou blessés dans une vague d'attaques, dont des attentats à la voiture piégée contre plusieurs points de contrôle dans le nord du Sinaï, une région où sévit le groupe État islamique. Le point avec Ekiabadou.
L'Égypte est à nouveau frappée par des attaques terroristes avec des attentats à la voiture piégée. L'armée a répondu en abattant une quarantaine d'assaillants. Les événements se sont déroulés au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Gaza. L'Égypte se relève à peine de la double attaque d'avril visant des chrétiens. Depuis, le président Abdel Fattah al-Sissi a instauré l'état d'urgence pour 3 mois et a accusé les djihadistes de vouloir semer la division en s'en prenant en minorité comme les Coptes, qui représentent 10% de la population. Depuis le renversement en 2013 du président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, des islamistes extrémistes, notamment province du Sinaï, qui a prêté allégeance au groupe islamique, ont multiplié les attentats contre les militaires et policiers, en tuant des centaines dans la péninsule du Sinaï.
Le Maroc a adopté 2 textes de loi visant à délimiter son espace maritime au large du Sahara occidental face aux îles Canaries et à imposer la tutelle du royaume sur ses eaux au statut toujours indéfini. Le porte-parole du gouvernement Mustapha El Khalifi a indiqué que l'objectif était de cimenter la tutelle juridique du Maroc sur ses eaux et barrer la route à toutes les allégations remettant en cause la souveraineté du royaume sur cet espace. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination, alors que Rabat, qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante du Maroc, propose une autonomie sous sa souveraineté.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hambourg, en Allemagne, les affrontements entre policiers et manifestants hostiles au G20 ont perturbé le programme des dirigeants les plus puissants du monde. Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu un tête-à-tête et le président russe s'est dit honoré de cette rencontre. Les explications de Salwa Jafari.
Les protestataires avaient promis l'enfer pendant le G20, voitures de police incendiées, 160 policiers blessés. Ils ont été nombreux à battre le pavé depuis jeudi. Au moins 45 d'entre eux ont été arrêtés. À l'intérieur de l'enceinte ultra sécurisée où se sont réunis les chefs d'État, l'ambiance est électrique avec en point d'angle le premier face-à-face entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont bien entretenus. Pourtant, il y a moins de 24 heures à Varsovie, Donald Trump critiquait ouvertement le rôle déstabilisateur de la Russie. Outre ce temps fort, le G20 va débattre de sujets difficiles comme le climat et le commerce. La chancelière allemande Angela Merkel.
Nous connaissons tous les grands défis mondiaux et nous savons que le temps presse. C'est pourquoi nous ne pourrons trouver des solutions que si nous sommes prêts au compromis.
Les États-Unis ont déjà remis en cause les accords de Paris sur le climat. Ils agitent en outre des menaces de taxes contre la Chine sur l'acier et contre l'Allemagne dans le secteur automobile.
Un policier français a été inculpé pour association de malfaiteurs. Il est soupçonné d'avoir aidé son frère impliqué dans une filière djihadiste et d'être partisan du groupe État islamique. Le policier en poste dans la banlieue sud de Paris est également poursuivi pour escroquerie en lien avec une entreprise terroriste. Un traité interdisant les armes nucléaires a été adopté ce vendredi aux Nations Unies, mais les puissances nucléaires ont refusé de participer au processus, ce qui limite la portée de ce traité adopté par 122 votes pour, une contre les Pays-Bas et une abstention. Pardon, les partisans du traité y voient une réalisation historique, mais les États nucléaires le jugent irréaliste, estimant qu'il n'aura aucun impact sur la réduction du stock mondial actuel de quelques 15 000 têtes nucléaires. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie de délirante la décision de l'UNESCO de déclarer ville de Hébron en Cisjordanie comme zone protégée du patrimoine mondial. Au lieu de tension, Hébron abrite une population de 200 000 Palestiniens et de quelques centaines de colons israéliens. Ils sont retranchés dans une enclave protégée par des soldats près du lieu saint que les Juifs désignent sous le nom de tombeau des patriarches et les musulmans de mosquée d'Ibrahim. Des éléments du groupe État islamique ont tué deux journalistes irakiens près de Mossoul, c'est ce qu'a annoncé la chaîne de télévision qui les employait. Un troisième journaliste est toujours bloqué dans le village avec les dépouilles de ses deux collègues tués. La chaîne n'a pas précisé la date de l'attaque, mais des combattants de l'EI se sont infiltrés dans le village d'Imam Garbi plus tôt cette semaine, kidnappant des civils et les forces irakiennes s'efforcent de les en chasser selon des responsables militaires. Et puis au Venezuela, l'Église catholique a accusé le gouvernement d'être une dictature qui sera renforcée avec l'élection le 30 juillet d'une assemblée constituante. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée par Dili Diko.
Dans le cadre du MCC, Millennium Challenge Corporation, le Congrès américain doit statuer sur un programme pour la Côte d'Ivoire d'environ 300 milliards de francs CFA. Ces financements porteront sur les domaines de l'éducation et du transport, deux domaines dans lesquels les investissements du MCC peuvent permettre de stimuler la croissance et le progrès économique en créant de nouvelles opportunités pour le peuple ivoirien. Le Sénégal poursuit la modernisation de son administration avec deux nouvelles procédures des services d'urbanisme. L'obtention du certificat de conformité, un document administratif attestant de la conformité des travaux réalisés, ainsi que le certificat d'urbanisme qui atteste qu'une opération immobilière est conforme à la législation et techniquement réalisable. Ces deux démarches sont désormais disponibles sur la plateforme Télé-Demande d'actes administratifs Télédac. Le site Passport Index vient d'établir un classement mondial des passeports en fonction de la facilité qu'ils offrent à voyager. Ainsi, le classement des passeports africains les plus favorables pour voyager indique que les Seychelles, l'île Maurice et l'Afrique du Sud font partie du top 3. Avec un passeport seychellois, il est possible de voyager librement dans 126 pays, dont 96 sans visa et 30 avec un visa à l'arrivée. Au bas de l'échelle, le passeport somalien, seule une trentaine de pays dans le monde accueillent les Somaliens sans visa préalable.
L'heure de retrouver Yacouba Ouédraogo pour l'espoir. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Alors la FIFA suspend la Fédération de football du Soudan.
Oui, cette suspension avec effet immédiat est une réaction de la FIFA à la mise à l'écart du président élu de la Fédération soudanaise de football, Moutassim Gafar Sir El Kahim, remplacé par Abdelrahman El Khatim le 2 juin à la suite d'un décret ministériel. L'instance mondiale du football a alors considéré cela comme une ingérence politique dans les affaires du football. Décision avec effet immédiat, conséquences immédiates, les clubs soudanais Al-Hilal, Hilal Obeid et El Merrek ne disputeront pas ce week-end la dernière journée de la phase de poule des Coupes Interclubs.
On connaîtra tous les qualifiés des quarts de finale de la Ligue africaine des champions ce week-end.
Tout à fait, sont déjà quarts de finalistes Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis et Étoile du Sahel. Il ne reste plus donc que 5 places à prendre et la situation des clubs soudanais devrait faire le bonheur d'autres. Dans le groupe A, avec la disqualification des Al Merrek, c'est Ferroviaro qui accompagnera l'Étoile du Sahel en quart. Tout reste possible dans le groupe B avec les 4 clubs encore en lice à l'affiche ce dimanche. USM Alger, Cap United, Zamalek, Al Ahly de Tripoli. Avec les qualifications de l'Espérance de Tunis et de Mamelodi Sundowns, seule la suprématie du groupe C peut encore être disputée. Dans le groupe D, Al Ahly qui reçoit Coton Sport 0 points en 4 matchs ne devrait pas avoir de soucis pour aller en quart ce samedi. Le second match entre WAC et Zanaco est tout aussi décisif.
Et la Coupe des Confédérations qui livre aussi tous ses quarts de finalistes ce week-end.
Effectivement, si Al-Hilal Obeid avait déjà son ticket, la suspension du Soudan redistribue les cartes dans le groupe C. Il ne restait qu'une seule place à prendre avec la qualification du club soudanais, mais désormais, tout peut encore arriver.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Amnesty International a dénoncé dans un rapport les attaques répétées depuis 20 ans contre l'opposition, les médias et les défenseurs des droits de l'homme au Rwanda, créant, selon l'organisation, un climat de peur à l'approche de la présidentielle du 4 août. Solange Nyamulisa a joint Christian Roumou, chargé de campagne pour Amnesty International.
Ce qu'on a sorti aujourd'hui comme rapport, on a retracé les deux décennies du climat de répression au Rwanda, juste après le génocide. C'est juste pour situer les élections courantes, c'est-à-dire les climats de peur dans lesquels vont se passer les élections prochaines au Rwanda. C'est placé dans un contexte où il y a eu des tactiques de répression qui ont été instaurées durant les deux dernières décennies et qui justifient le fait que présentement, il n'y a presque pas une opposition forte contre le président Kagame.
Mais vous vous basez sur quoi pour parler de la peur? Quels sont les éléments?
Les éléments, ce sont des cas qui ont été documentés dans ce rapport. Il y a une partie où nous retraçons un peu les cas passés depuis les années 90-2000, avec les cas des anciens présidents ou des anciens membres du gouvernement de transition, mais aussi des cas récents d'attaques contre les membres de l'opposition, notamment récemment l'année dernière avec la disparition de Jean Damascène du parti des forces démocratiques initiées FDI. Mais aussi la disparition jusque-là non expliquée de Madame Illuminée Iragena. Il y a aussi l'arrestation très récemment de Violette Ouamahoro. Donc tout cela, ce sont des cas qu'on a documentés, mais aussi la situation des médias et de la société civile qui est très, très répressive. On a vu l'année dernière comment les journalistes ont été arrêtés. Les élections qui vont se passer dans un climat qui n'est pas favorable, au fait, à la liberté d'expression et d'association pour que tous les Rwandais participent de manière ouverte à la discussion au débat sur les élections qui vont venir.
Ces opposants sont accusés quand même d'avoir tenu des propos génocidaires.
Les cas récents, il n'y a presque personne qui a été accusé de propos génocidaires, à part les cas il y a quelques années de Madame Victoire. Nous avons soulevé beaucoup de questions en ce qui concerne la loi qui a été à la base des charges contre Madame Victoire, parce que c'est une loi qui est très, très imprécise. Et donc, nous avons demandé qu'il y ait des réformes sérieuses sur cette loi pour qu'on précise exactement ce qui est tenu des génocides, parce que dans l'état actuel, ça n'en est pas. Et même cette précision-là doit se placer dans le cadre du droit international.
C'était Christian Roumou, chargé de campagne pour Amnesty International. Et par souci d'équilibre, nous avons cherché à obtenir une réaction du gouvernement de Kigali, mais sans succès.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, c'est la période des concours d'accès à la fonction publique. Mais très peu d'élèves et d'étudiants candidats à ces concours croient en leurs chances de réussite. Selon eux, la corruption a pris le dessus sur le mérite. Précision de Georges Ibrahim Tunkara, notre correspondant à Abidjan.
En Côte d'Ivoire, tout le monde en parle et est convaincu. Pour être admis à un concours d'accès à la fonction publique, il faut délier les cordons de la bourse, payer de l'argent pour espérer être sur la liste des élus. Augustin Siri est étudiant.
Par rapport à ma fiancée qui est rentrée au concours CAFOP, j'étais obligé de pousser une somme de 400 000 francs CFA. Auparavant, à trois reprises, j'avais payé, elle avait échoué. Mais cette fois, l'année dernière, j'ai payé 400 000 francs encore et puis voilà, elle a été admise à son concours.
Autre témoignage, celui de Kwebi qui explique ici ses différents échecs.
Auparavant, j'ai présenté le concours de jeune à mairie, qui n'a pas marché. Et également le CAFOP, qui n'a pas marché. Mais je connais des personnes qui ont donné de l'argent et qui ont reçu le concours. Donc je suppose que en Côte d'Ivoire ici, les méritants n'ont pas le concours. C'est ceux qui ont l'argent qui ont le concours.
Donc vous pensez que si vous aviez donné de l'argent, vous seriez admis?
Il y a payé de l'argent, mais il y a aussi à qui payer de l'argent. Donc c'est un réseau qu'il faut vraiment trouver.
Après plusieurs échecs, Kwebi a décidé de ne plus mettre le couvert.
Moi, j'ai arrêté le concours parce que je pense que c'est inutile puisque je n'ai pas d'argent et puis je n'ai pas la bonne personne à qui il faut donner. Donc, mieux vaut ne pas me fatiguer avec le peu que j'ai.
Les témoignages sont nombreux et la pratique, dit-on, ne date pas d'aujourd'hui. Les concours les plus prisés sont ceux relatifs à l'école de la police, l'école de la gendarmerie ou encore le CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, l'école qui forme les enseignants et éducateurs du scolaire. Yeo Poroban est fonctionnaire. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a fini par avoir gain de cause sans avoir, dit-il, déboursé le moindre centime.
Pour un concours de 50 à 20 places, on a des milliers de candidats. Pour 50 places, s'il y a des milliers de candidats, c'est dit qu'il y a des milliers aussi qui vont perdre. Et comme ça, on se dit que c'est par voie de corruption, il faut payer pour être admis.
À la direction des examens et concours, la DECO, on réfute l'existence d'une filière liée à la corruption. Cependant, certains de nos interlocuteurs admettent avoir eu vent de cette pratique. En attendant que les choses changent, Augustin Siri veut lancer ce cri de cœur.
C'est un cri de cœur pour nous, les pauvres, qui n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer le concours. C'est difficile pour nous. Arrivé à un certain âge, les parents ne s'occupent plus de vous. On nous avait dit que ça allait gâter des chances. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas là.
Alassane Ouattara avait promis une lutte sans merci contre ces pratiques. La réalité est tout autre, 6 ans après son avènement au pouvoir. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, la semaine du 3 au 9 juillet est dédiée aux cérémonies de purification du pays. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu hier la grande cérémonie des religions traditionnelles à Lomé, plus précisément sur la berge de la lagune de la capitale. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
C'est sous une file pluie que les rites de purification se sont déroulés sur la berge de la lagune de Bay, un site choisi par les divinités pour son symbolisme, nous explique Sidali Zigui, prêtresse de la forêt sacrée de Bay. Cette lagune représente l'essence même de notre communauté. Donc c'est de bon ton que la cérémonie de purification se déroule sur la berge de ce cours d'eau. En plus, au début du processus de démocratisation du Togo, des dizaines de personnes ont été tuées et jetées dans la lagune. Nous avons repêché à l'époque 47 corps au total. Par cette cérémonie, nous avons apaisé leur âme afin qu'ils rejoignent le séjour des morts en paix. Nous avons purifié le pays, que ces actes ignobles ne se reproduisent plus. La semaine du 3 au 9 juillet a été retenue par le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale Hachkoun pour diverses cérémonies religieuses, à savoir chrétiennes, musulmanes et traditionnelles, pour un seul et même but. Awanana Daboya, présidente du Hachkoun.
Des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs maîtres, à tous regarder devant et à œuvrer pour le bien vivre ensemble.
Lors de la cérémonie traditionnelle, l'oracle Gouda Gagla Boloso est revenu sur les rivalités qui opposent les Togolais. Foga Ndenyon, natif de Bay, délivre le message de l'oracle.
Gouda Gagla Boloso, l'oracle, dit que il y a toujours question de rivalité, le problème de qui est plus puissant que qui. Et l'oracle demande de faire des cérémonies pour apaiser les mauvais esprits. L'oracle dit, il y a eu des promesses non tenues. La promesse est faite où, à quel endroit, à quel niveau ils vont continuer à chercher pour conjurer ce mal.
Les garants des us et coutumes ont appelé les Togolais à plus de fraternité afin de garantir la non-répétition des violences qui ont émaillé l'histoire du pays. Togbui Asiobo Nyaglondjo III, président de la Confédération des prêtres traditionnels du Togo.
Je ne pense pas qu'il y aura encore des tueries dans ce pays. Nous allons faire les cérémonies traditionnelles comme les ancêtres nous ont demandé. Mais le reste à la population aussi, de ne pas se donner à des provocations.
On te donne des ordres, on ne te dit pas d'aller tirer sur les gens. On te dit d'aller faire un maintien d'ordre. On ne t'a pas dit d'aller tuer les gens.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Le président américain Donald Trump a rencontré pour la première fois ce vendredi le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, en face à face sous haute tension en marge d'un sommet du G20, déjà marqué par des affrontements entre policiers et manifestants. Et pour en parler, John Lindon a joint sur place Luis Ramirez, il est l'envoyé spécial de la VOA au G20.
La police d'Hambourg a tiré des canons à eau lors de manifestations, alors que les dirigeants des 20 économies les plus riches du monde ont ouvert les pourparlers. Le grand article d'ordre du jour du vendredi est le premier rendez-vous face à face du président Donald Trump avec le leader russe Vladimir Poutine. Une rencontre en marche qui a été très attentivement surveillée. Le leader des États-Unis devrait aborder les problèmes de la Syrie, de l'Ukraine, de la Corée du Nord, et éventuellement des allégations d'ingérence russe lors des élections américaines. Les manifestants de gauche ont essayé de bloquer les États-Unis et des autres délégations d'entrer dans le lieu de le G20. Leur objectif est de perturber le sommet, d'empêcher l'accès. Ils voient le regroupement comme un rassemblement de l'élite riche du monde qui les reproche pour les disparités économiques mondiales. Leur objectif est en grande partie le président Trump, et beaucoup ont déclaré être indignés par sa décision de retirer des États-Unis de l'accord climatique de Paris.
L'un des grands sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la rencontre entre le président Donald Trump et Vladimir Poutine. Comment est-ce que cette rencontre a été analysée là-bas par les médias?
On peut dire que c'était une rencontre très cordiale. Les deux leaders sont rencontrés avant un repas officiel. Ils ont tendu la main. Il y a eu des souris. Mais on ne sait pas ce qui se va passer dehors les portes fermées, parce que les sujets qu'on va toucher sont très sensibles.
Est-ce que au niveau des échanges de manière globale, l'Afrique a été évoquée à ce sommet?
Oui, bien sûr. Un grand sujet de discussion est aussi le pacte africain. C'est un projet proposé par la chancelière allemande Angela Merkel. C'est pour accroître la coopération avec le continent. Ça fait partie de sa politique de prendre, on peut dire, plus d'action. Maintenant qu'il y a la perception ici en Europe, parmi quelques leaders, que les États-Unis ont adopté une position d'isolation.
C'était Luis Ramirez, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique au G20 à Hambourg, en Allemagne.
It's the remix, yeah. The remix, yeah.
So fly.
Akon, B-Square, Mr. Maybe, convict music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction to make sure that we stay in line. Sexual corruption, cause I'll kill anyone for your time. Tie-eye, yeah. Even though I make real dough, you're the reason there'll be more, yeah. Tie-eye, yeah. Even though I got much more. Body not die, you want baby. We supposed to live like family. Hey, I know the lie. There's nothing stopping me.
On se quitte sur ce titre, Shop My Money, avec P-Square et Akon. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnot. Et puis à la console, Franklin Cedrac. Présentation, Abdelrahman Dia. Passez un excellent week-end. Au revoir.
If you see this baby, tell him say, she must chop my money.